Nous recevons aujourd'hui trois médiatrices familiales pour nous parler non seulement de ce métier, mais surtout du monde de la famille lorsqu'elle se déchire, lorsque les parents ne s'entendent plus. Que faut-il faire? Comment faire? Quel accord trouver? Tout cela pour le bien de l'enfant, nous allons le voir. Trois médiatrices familiales dont je vais faire maintenant la présentation. Marie-Josée Assier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Oui, tout à fait.
Vous aurez sans doute l'occasion de nous redire quelques mots sur cette organisation, cette association.
Association, loi 1901.
Nous recevons également Marie-Pierre Soucas. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice familiale également au sein de l'association départementale sauvegarde enfance et adolescence du 65.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle l'ADSEA.
C'est ça.
Et nous recevons également Christine Cazot. Bonjour.
Bonjour.
Médiatrice familiale à l'UDAF, c'est-à-dire l'Union départementale des associations familiales du département des Hautes-Pyrénées.
C'est exact.
Mesdames, bienvenue dans ce studio pour nous parler d'abord de votre métier, méconnu sans doute de la plupart de ceux, j'espère en tout cas, qui nous écoutent, qui n'ont pas eu affaire à vous. Parce que lorsqu'on frappe à la porte d'une médiatrice familiale, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, qu'il y a des difficultés dans la famille. Justement, peut-être l'une et l'autre, vous allez pouvoir nous présenter ce qu'est la médiation familiale. Marie-Josée Assier, c'est un diplôme d'État, la médiation familiale, être médiatrice.
Oui, tout à fait. La médiation familiale est un diplôme d'État, reconnu d'État, donc avec une formation à la clé d'un nombre d'heures assez conséquent et validé donc par un diplôme qui nous permet ensuite de pouvoir exercer en tant que médiateur familial. Voilà.
Et vous, vous exercez au sein des associations dont nous venons de parler.
Oui. Oui.
Sur ce métier, c'est un métier que vous avez choisi les unes et les autres. À quel moment? Parce que ça ne tombe pas sous le sens, ce n'est pas une évidence. On ne se lève pas un matin en disant « et si je devenais médiatrice familiale ?» Alors pour vous, c'était vraiment une aspiration à vous occuper des autres, à être à l'écoute. C'est un métier d'écoute, non?
Oui, effectivement, le métier de médiation, de médiateur familial, il faut déjà, je pense, être intéressé et attiré par les questions intrafamiliales. Moi, j'avais l'occasion, dans mon activité précédente d'éducatrice spécialisée, rencontrer des enfants, des adolescents au sein de familles en difficulté avec des difficultés éducatives. Vite été intéressée pour essayer d'aider ces parents qui étaient en difficulté de pouvoir répondre sur le plan éducatif le mieux qu'ils pouvaient auprès de leurs enfants. Et voilà, notre fonction de médiateur familial est bien là pour pouvoir aider des parents dans leur parentalité, dans leur rôle de parent.
Nous y reviendrons. Voilà. Marie-Pierre Soucas, vous, votre trajectoire, votre parcours aussi concernant ce métier de la médiation familiale.
En effet, je viens moi du champ socio-éducatif. J'étais éducatrice spécialisée jusqu'il n'y a pas très très longtemps. Mais ceci dit, depuis à peu près 5-6 ans, j'ai choisi une autre voie qui correspondait plus à une recherche de sens en fait par rapport à ma deuxième partie de carrière professionnelle. Quoi.
Et vous, Marie-Josée Assier, vous venez du monde juridique, non?
Oui. Voilà. Oui. Alors effectivement, ce qui m'a amenée à aller vers la médiation familiale, c'est le fait que je me suis aperçue assez rapidement, au début de ma carrière professionnelle, que le monde juridique ne répondait pas forcément toujours aux attentes des personnes, même s'il est indispensable de passer par les magistrats ou d'être accompagné, représenté par des avocats. Je me suis aperçue que la question du conflit, elle demeurait malgré des décisions et que, il y avait besoin de réfléchir avec les parents à des solutions qui leur permettent de travailler sur le conflit, puisqu'on va le voir après et on va parler effectivement du conflit, de l'apaisement du conflit.
Alors, avant de dire objectivement ce qu'est la médiation familiale, quel est votre travail dans le quotidien, peut-être on va dire ce que vous ne faites pas. Ça donnera à comprendre éventuellement à ceux qui nous écoutent. Vous n'êtes pas des conseillères conjugales. Non, pas du tout.
Pas du tout. Ni des thérapeutes familiaux.
Oui.
Nous intervenons plutôt dans le champ du pratico-pratique. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils viennent en médiation familiale, généralement, effectivement, il y a un sujet de discorde, un désaccord ou des conflits assez conséquents qui font que, effectivement, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions par eux-mêmes. Et donc, ils viennent voir un tiers neutre et impartial, qui est le médiateur familial, et avec qui ils vont pouvoir délier, mettre de la souplesse dans la communication, comprendre des intentions, des malentendus, reparler de tout ça, en vue de trouver des solutions qui vont, pacifier les relations et qui vont permettre une organisation différente.
Ce que nous dit à l'instant Marie-Pierre Soukas, c'est qu'au fond, vous arrivez en complémentarité ou après le travail de ceux qui ont essayé des thérapies familiales, des thérapies de couple, que sais-je.
Parce que ce qui est à préciser, c'est que la médiation familiale s'adresse principalement à des parents séparés ou divorcés. Qui envisagent de se séparer, mais majoritairement ils sont déjà séparés, alors que des parents qui vont voir un thérapeute de couple ou un conseiller conjugal, c'est parce que souvent ils traversent une crise de couple et qu'ils vont voir ce professionnel pour les aider à rester ensemble, alors que nous intervenons après. C'est vraiment pour aider des parents à organiser au mieux toutes les conséquences de leur séparation. Au niveau de l'organisation quotidienne des enfants, la prise en charge, la répartition de la prise en charge des enfants au quotidien.
Donc vous avez toute une méthode qui permet au fond aux parents qui ne veulent plus se parler, parfois sans doute, dissension lourde, forte, d'être dans la même pièce et aller cheminer vers un accord, c'est ça ? Vous créez des conditions pour trouver des accords ?
Tout à fait. On va leur donner, en fait, leur proposer un espace où ils vont pouvoir, chacun à tour de rôle, exprimer quels sont leurs besoins. Nous sommes là pour favoriser la prise de parole, pour qu'ils puissent s'exprimer librement, que chacun puisse écouter l'autre, ce qui est parfois compliqué à l'extérieur, en tout cas, de la médiation. Mais ça va être vraiment le travail de la médiatrice au départ, vraiment de poser le cadre et les meilleures conditions pour que ces personnes puissent arriver à discuter. Parce que bien souvent, elles sont en désaccord. Pour certaines, parfois, elles ne se sont plus adressées la parole depuis plusieurs mois. Ou en tout cas, il n'est plus envisageable pour elles de s'adresser à l'autre. Donc nous sommes vraiment là pour que cette parole se fasse. Sachant que nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour être convaincus que l'un a raison par rapport à l'autre et nous ne sommes pas là pour décider pour eux. Donc l'exercice est parfois aussi pas évident pour les personnes quand elles arrivent dans notre bureau, dans la salle, puisqu'on les reçoit en fait dans une salle de médiation familiale, parce que bien souvent chacun arrive un petit peu avec ses arguments à défendre et a vraiment la volonté que le médiateur aille dans son sens. Or nous, on va ni dans le sens de l'un ni dans le sens de l'autre, on propose vraiment un espace pour que les personnes l'utilisent et s'expriment, et après de voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commun. Voilà.
Oui, allez-y, complétez les propos des uns.
En fait, les personnes sont actrices de leur situation du début à la fin. Et de cette manière, elles vont trouver des accords ou des solutions qui leur vont bien à elles. Et en ce sens, elles sont libres de faire ce qu'elles souhaitent.
Donc, vous créez ces conditions pour qu'on puisse se reparler.
Oui. Voilà.
Apaiser des conflits, c'est possible, ça ?
Oui. C'est s'écouter pour mieux se parler.
Oui. Allez-y, Christine
Cazot. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent conflit ? C'est parce qu'une séparation, c'est un divorce chez des parents, c'est une épreuve difficile. C'est vraiment une période vraiment très, très difficile. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement, ils passent par des sentiments comme de la colère, il y a de la tristesse. tristesse, de la souffrance, de la rancœur, qui font que lorsque, après, ils doivent se parler en tant que parents et d'essayer d'assumer leur responsabilité de parents, c'est difficile parce qu'ils sont complètement parasités par ces émotions-là, par la colère, par l'envie de vengeance, parce qu'ils se sont sentis trahis, parce qu'ils sont, ils souffrent ou parce qu'ils veulent, se débarrasser de l'un ou de l'autre. Et c'est terrible parce que finalement, ils n'arrivent plus à se dégager de leur situation conjugale, de leur conflit conjugal. Et nous, notre travail, c'est progressivement de les amener à se dégager de ça pour essayer de se mettre à une place parentale et de voir qu'est-ce qui est important pour les enfants, pour leurs enfants, parce que leurs enfants n'ont rien demandé à personne. Ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir continuer à voir papa et maman en toute harmonie, en toute sérénité. Et lorsque des parents se déchirent, se dénigrent l'un et l'autre, c'est terrible pour des enfants d'entendre papa critiquer maman ou maman critiquer papa. Et souvent, les parents ne mesurent pas les conséquences sur les enfants. Les enfants peuvent être très perturbés d'entendre des parents se dévaloriser, se disqualifier. Donc, nous, on essaye aussi de les amener à réfléchir sur leurs fonctions et leurs responsabilités de parents pour éviter ça. Et du coup, petit à petit, ils se dégagent de leur conflit conjugal pour arriver à une construction parentale.
Et ultimement, finalement, ce sur quoi vous avez pu les faire s'accorder sera devant un juge qui va sceller ce pacte. C'est devant vous qu'on scelle ce pacte ?
Alors, en fait, au niveau des accords qui vont être passés en médiation familiale, il y a deux possibilités. Effectivement, on va amener, quand il y a donc des accords passés entre les parents, on va les inviter à ce que ces accords soient formalisés par un écrit. Cet écrit, effectivement, pourra être, si les parents le souhaitent, en fonction de la situation, pourra être validé par le juge d'affaires familiales. Voilà. Mais ce document-là, effectivement, dans la mesure où il est rédigé par écrit, il est signé par les deux parties, mais pour qu'il ait une réelle force exécutoire, comme on dit, il faut qu'il soit validé par un magistrat. Voilà. Toutefois, il peut y avoir certaines situations où les parents ne souhaiteront pas forcément des accords écrits et une médiation se terminera avec des accords oraux. C'est plus à la marge, mais ça peut exister.
Tout comme il peut exister aussi des parents qui veulent faire des accords écrits, mais qui n'ont pas envie spécialement de passer devant le juge.
Marie-Josée Assier, Marie-Pierre Soucas et Christine Cazot, vous restez dans ce studio. Nous marquons une pause. Nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous sur ce qu'est la médiation familiale. Nous parlerons juste après la pause d'autorité parentale et vous nous direz très concrètement comment vous essayez de faire que ce quotidien qui est un enfer, en particulier pour l'enfant, qui est déstabilisé, peut redevenir à peu près serein. Nous en parlons juste après ceci. Nos invités aujourd'hui, Marie-Josée Assier, qui est directrice du CIDFF, il s'agit du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, et vous êtes médiatrice familiale, tout comme Marie-Pierre Soucas, qui est médiatrice au sein de l'association ADSEA 65, c'est l'association départementale sauvegarde enfance et adolescence, et Christine Cazot, qui exerce ce métier aussi de médiatrice familiale à l'UDAF, c'est-à-dire l'Union départementale des associations familiales. Et vous nous faisiez découvrir dans la première partie de cette émission, en tout cas moi je le découvrais, je vous le dis, ce qu'est la médiation familiale lorsque des parents sont en conflit, qu'ils sont allés au bout de ce qu'on pouvait leur offrir comme conciliation, discussion, conseil conjugal, thérapie. Ils frappent à votre porte. Et là, on essaie d'arranger, de voir comment on peut, pour le bien de l'enfant, mesdames, toujours, quand il y en a, dans l'intérêt de l'enfant, comment on peut arranger le quotidien qui va suivre et la vie qui va suivre. Est-ce que vous diriez que vous avez un gros sujet d'autorité parentale ? C'est-à-dire, vous traitez de cette question, au fond, qui fait quoi ? C'est à peu près ça, Marie-Josée Assier. Il faut arriver vite dans le concret lorsque vous recevez ses parents.
Oui, alors effectivement, l'autorité parentale, c'est un terme juridique, ça fait partie du code civil, mais bien souvent, les parents, en fait, je ne vais pas dire se soucient, parce que tout parent se soucie du bien-être de son enfant, mais au moment de la séparation, l'autorité parentale prend du sens. C'est à ce moment-là qu'on se questionne sur qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs que les parents ont envers leur enfant et dans l'intérêt de l'enfant. Et concrètement, ça va se traduire par des questions en fait qui concernent le quotidien des enfants, qui vont être la résidence de l'enfant, c'est-à-dire qu'en médiation familiale, on va souvent traiter la question de la résidence de l'enfant, c'est-à-dire à savoir le rythme de l'enfant chez chacun des parents. Est-ce qu'on va être sur une résidence principale avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent, ou est-ce que les parents vont mettre en place une résidence alternée sur le principe d'une semaine, une semaine ou autre chose. Voilà, on va vraiment beaucoup évoquer cette question de la résidence et du quotidien et de toutes les modalités du quotidien des enfants.
Mais qui décide de cela? C'est vous qui suggérez? Comment vous faites? Vous conseillez? Ou bien ce sont les parents qui font émerger, tant bien que mal, une solution?
Nous partons de leur demande. Hein, parce que tous, ils ont réfléchi en amont. Ils se séparent, ils vivent une situation, mais ils ont des attentes, des besoins, et qu'ils expriment. Ils disent ben voilà, pour mon enfant, je souhaiterais plutôt une résidence alternée parce que je veux garder, je veux voir nos enfants le plus possible au quotidien, partager du temps. Voilà. Et l'autre parent peut être d'accord ou peut ne pas être d'accord. Hein, et c'est là que la discussion peut être importante parce que la médiation offre cette possibilité d'échange parce que du coup, chaque parent exprime les arguments sur son attente précise. Ça permet aux parents d'exprimer de sa place de père et de sa place de mère ses attentes et du coup d'amener aussi comment est conçue la place du père et de la mère dans cette famille, mais aussi, les attentes des parents, c'est aussi en fonction de leurs possibilités, au niveau de disponibilité professionnelle, de leurs envies aussi. Hein, il y a des parents qui vont privilégier un mode de garde à une autre. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse exprimer jusqu'au bout leurs arguments. Pourquoi ils préfèrent une résidence principale chez l'un ou chez l'autre? Pourquoi une résidence alternée? Pourquoi les vacances, ils vont préférer des séjours alternés de 15 jours, ou plutôt une semaine ou un mois. Enfin, c'est chacun amène finalement leurs envies, leurs demandes, et c'est comme ça qu'après des discussions puissent se faire. Nous, notre rôle de médiatrice, c'est pas d'amener des suggestions parce qu'ils les ont, hein, mais c'est surtout de leur permettre de s'exprimer à tour de rôle. On demande
de clarifier leurs demandes.
Tout à fait.
Hein, en vue de prendre des décisions qui leur iront bien, parce que souvent ils arrivent avec des idées préconçues sur ce qu'ils pensent qui serait mieux pour l'enfant ou pour eux-mêmes. Et puis nous, de par nos questions et de par la discussion qui va avoir lieu, ils vont pouvoir se rendre compte de la faisabilité, des difficultés qui seront liées, des contraintes, etc. Et donc, du coup, de pouvoir beaucoup plus clarifier leurs demandes et de prendre des décisions qui leur iront plutôt mieux.
Peut-on énumérer ces sujets sur lesquels vous devez trouver ou faire en sorte que les parents trouvent un accord ? On a parlé de la résidence, c'est le grand sujet, où habitera l'enfant ensuite.
Mais après, il peut être une question sur la scolarité, par exemple, le choix d'une école, le choix d'une orientation, le choix aussi de la langue que l'enfant pourra pratiquer au collège ou au lycée plus tard, ainsi que les options. Ça peut être aussi des questions sur le choix d'une religion, de la pratique d'une religion ou pas. Ça peut être aussi le choix des activités scolaires et comment extrascolaires.
Ça peut être aussi également la question des relations avec les tiers. C'est-à-dire comment, vu qu'il y a donc une nouvelle organisation de la vie des enfants, comment va se passer la relation avec les tiers? Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi la place d'une nouvelle ou d'un nouveau compagnon, d'un nouveau partenaire, voilà. Et quelle est la place de ce tiers dans la vie de l'enfant? En tant que parent, qu'est-ce que j'accepte et comment j'accepte? Voilà, ça, ce sont aussi des discussions et des sujets sur lesquels nous traitons en médiation régulièrement.
Votre énumération nous donne le tournis parce qu'on se dit, mais comment on fait pour régler tout ça? Alors que normalement, quand tout va bien, quand tout va pour le mieux, ça se règle de façon assez simple dans les familles. Mais là, tout est à régler. Il faut trouver des accords sur tout cela, mesdames.
Alors, il n'y a pas forcément...
Chaque situation
évidemment différente et on a des parents pour lesquels il n'y aura pas forcément tous ces points-là qui seront énumérés. Ce sera uniquement la question de la résidence parce que sur le reste, malgré tout, ils arrivent quand même à s'entendre. Mais parfois, c'est arrivé effectivement sur certaines médiations qu'il faille revenir sur tous ces points-là. Voilà, la question qui va venir en complément du choix de la résidence, c'est la question de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'aspect financier est un gros point, je vais dire.
Et là, c'est le sujet de discorde, souvent ?
Oui, c'est
comme
un sujet...
Comme un autre, mais un sujet
important quand même.
C'est un sujet quand même important, effectivement. Mm-hmm. C'est un sujet
ce qu'on appelle parfois la pension alimentaire.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Et donc là, vous prenez le paperboard et vous dites, bon, voici le budget, comment on peut faire, ce qui justifie telle pension. Voilà. Jusque-là, c'est dans du très concret.
C'est-à-dire qu'on va amener les parents à lister tous les postes de charge qui concernent l'enfant. On essaye de faire ça mensuellement pour que les parents aient vraiment une représentation identique de, voilà, pour notre enfant, tous les mois, il y a telle dépense. Et ça, c'est important qu'ils puissent avoir, au même moment, avec l'aide d'un tiers neutre, ça c'est important, puisque c'est le rôle du médiateur d'être un tiers neutre, et bien qu'ils puissent évoquer ces points-là. Parce que ça permet vraiment d'avoir une vision plus sereine, par la suite une estimation plus entendable d'un montant de pension alimentaire. Parce que parfois, on a le sentiment qu'on verse, un parent verse une pension alimentaire, et il a le sentiment que cette pension, elle n'est pas vraiment pour l'enfant. Elle est plutôt un complément de revenus pour l'autre parent. Donc effectivement, le fait de lisser les postes de charge et de se rendre compte, ben, tiens oui, pour notre enfant, tous les mois, il y a telle dépense, ça permet vraiment de pacifier et de permettre que la question de l'aspect financier soit plus facilement acceptable. Voilà.
Puisque vous parlez d'aspect financier, faisons cette petite aparté sur combien coûte une médiation. C'est une question sans doute que ceux qui nous écoutent se posent là, à cet instant-ci de l'émission. Puisque vous êtes intégré, vous, totalement dans des associations, vous exercez ces métiers au sein d'associations dont nous avons parlé. Vous vous faites payer, mesdames, par l'association, mais est-ce que les parents paient aussi ?
Voilà, nous sommes salariés de nos associations respectives. Et la médiation familiale, nos trois associations sont conventionnées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale du département des Hautes-Pyrénées. Et à ce titre, nous recevons des financements de la Caisse d'allocation familiale. Néanmoins, il est demandé une participation aux séances de médiation familiale aux personnes que nous recevons selon un barème qui est national, qui est fixé par la Caisse nationale d'allocation familiale et qui est un barème qui tient compte en fait des revenus des personnes. Par exemple, pour une personne qui perçoit un revenu inférieur au RSA, c'est 2 euros par personne et par séance. Quelqu'un qui est entre le RSA et le SMIC, c'est 5 euros. Quelqu'un qui perçoit entre le SMIC et 1200 euros, c'est 5 euros plus 0,3% du revenu. Ça fait des séances entre 8 et 9 euros, etc., etc. Voilà. C'est vraiment adapté aux revenus des personnes. Il faut savoir aussi que la première rencontre de médiation familiale, ce qu'on appelle la séance d'information, celle-ci est gratuite. Parce qu'il peut y avoir deux types de séances d'information. Parfois, elle est individuelle. Ou parfois, elle est, on a tout de suite les parents ensemble. Voilà. Donc cette rencontre-là, où on informe les personnes sur ce qu'est la médiation, comment ça se passe, à quoi on peut aboutir, de quoi on peut parler, celle-ci est gratuite. Cette participation que je viens d'énoncer ne s'applique que lorsque la médiation familiale commence véritablement, quand les gens ont décidé de s'engager dans la médiation familiale.
Nous nous arrêtons une nouvelle fois dans cette émission spéciale sur la médiation familiale et nous retrouvons juste après nos médiatrices familiales qui continuent à nous parler de leur métier, de leur pratique. Et justement, nous reviendrons sur la méthode, le nombre de séances et nous parlerons aussi du dialogue. Comment renouer le dialogue ? À tout de suite. C'est la dernière ligne droite de cette émission consacrée à la médiation familiale. Nous recevons Marie-Josée Assier au sein du CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Vous êtes directrice, vous exercez ce métier de médiatrice familiale. Vous, Marie-Pierre Soucas, vous êtes médiatrice familiale à l'ADSEA 65, cette association départementale sauvegarde enfance et adolescence. Et Christine Cazot, médiatrice familiale à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales du département des Hautes-Pyrénées. Voilà, ce métier dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes sur vos objectifs, l'apaisement des conflits, le rétablissement du dialogue, l'organisation dans l'intérêt de l'enfant, de la vie de l'enfant justement, avec ses parents qui se séparent et qui se déchirent. Comment on fait pour renouer le dialogue au sein des familles ? Nous avons parlé de la famille restreinte qui se déchire, les parents. Vous les recevez dans vos cabinets respectifs, vous essayez de créer les conditions du dialogue et des accords possibles. Mmh. Et puis il y a cette famille plus élargie qui peut-être a le souhait que quand même des choses perdurent, des liens avec des grands-parents, des fratries, enfin... Quand tout casse, eh bien, il faut essayer de recoller les morceaux. Comment on fait pour renouer du dialogue au sein des familles ? Commencez peut-être vous,
oui.
Marie-José.
Alors Assier. Effectivement, la médiation, on a parlé, comme vous venez de le dire, de la cellule restreinte, c'est-à-dire les parents et l'enfant. Mais effectivement, la médiation s'adresse aussi à des grands-parents qui seraient en rupture de lien avec leurs enfants ou petits-enfants. En général, c'est avec leurs petits-enfants. Et donc, effectivement, on va inviter les enfants à participer à une médiation donc avec les grands-parents pour pouvoir rétablir du lien. Voilà. Donc, effectivement, c'est... Là aussi, on est sur la même manière de fonctionner que ce qu'on a pu dire précédemment, hein. C'est-à-dire qu'on va réunir les personnes dans un lieu neutre pour pouvoir, pour que chacun puisse exprimer quel est son besoin, quelle est son attente, et à partir de là, voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en commun, en tout cas de trouver des solutions, ce qu'on appelle, nous, mutuellement acceptables pour tous.
Mutuellement acceptable pour tous. Oui. Voilà, donc c'est mutuellement, ouais, c'est, oui. Chacun dit OK,
ouais,
et puis faut-il, c'est recevable, et on peut les faire vivre, voilà. Ces solutions. Ouais. Et ça signifie que même dans des fratries, on peut être en discorde et vous réunissez des frères, des sœurs, oui. pour s'accorder sur l'accompagnement de papa, maman, mmh, qui vieillissent.
C'est ça. Alors, des fratries qui sont en désaccord entre eux, ça peut arriver aussi, et qui, à un moment donné, souhaitent pouvoir se réconcilier, retrouver une relation plus positive. Donc, voilà, on a aussi ce type de médiation, mais aussi, là, ce qui nous arrive de plus en plus souvent, en tout cas en 2017, ça s'est bien amorcé. Et moi, à mon niveau, j'ai fait une formation dans ce sens-là en 2017 et je vais poursuivre en 2018 sur, effectivement, les médiations familiales dans les situations de vieillissement. Ça s'adresse à des personnes, tous les conflits qu'il y a autour de la question du vieillissement de la personne âgée et surtout la question de la prise en charge et parfois de l'orientation qu'il faut prendre pour un parent vieillissant, savoir... voilà, par exemple, des différentes options. Il y a j'ai eu une médiation familiale il y a quelques temps où il y avait deux frères et deux sœurs qui ne s'entendaient pas sur la prise en charge de leur maman de 90 ans qui était seule à son domicile. L'un pensant que l'orientation vers une maison de retraite était plus adaptée, l'autre disant non, moi je vais prendre maman à la maison, le troisième disant mais non, on préfère, vaut mieux qu'elle reste chez elle et on met des aides à domicile. Et en réunissant quatre frères et sœurs, petit à petit, ils ont réussi à dépasser des a priori qu'ils avaient, des malentendus, et ils se disputaient depuis des années sur ces questions-là, pensant que l'un était privilégié par rapport à maman, etc. Et là, finalement, en discutant, en mettant les choses à plat, en se reconnaissant l'un et l'autre dans leur place, dans leur rôle, dans leur fonction, ils ont réussi à trouver des accords, à faire en sorte que finalement, les quatre frères et sœurs ont trouvé des solutions pour permettre à leur maman de continuer une vie apaisée. Et la maman était venue en fin de médiation d'ailleurs pour écouter la décision des enfants et elle était ravie de voir que ses quatre frères et ses quatre enfants s'étaient entendus par rapport à sa vie, à son avenir à elle. Voilà.
Marie-Pierre Soucas, votre posture, c'est toujours de dire il y a une solution possible, il y a un dialogue possible.
Alors oui, ça, il y a toujours un dialogue possible.
C'est un défi.
Mais, oui. Il n'est pas dit que les personnes arrivent tout le temps à des accords. Parce que la médiation peut aboutir comme ne pas aboutir. Mais même si elle n'aboutit pas, il y a toujours quelque chose qui s'est dit et qui va faire son chemin dans le temps. Et puis, il y a aussi le temps de la médiation. Pour certaines personnes, je pense surtout dans les séparations, par exemple, quand c'est trop tôt ou quand c'est pas le bon moment, on sent bien que les personnes ne sont pas au travail et qu'elles ont besoin de temps pour accepter la permanence de leur nouvelle décision. Et une fois que cette acceptation se fait, un dialogue peut arriver et peut résoudre beaucoup de conflits.
Oui, quand les plaies sont encore à fleur de peau, il n'y a pas forcément... Oui. Quelque chose de possible.
Oui.
Vous les recevez pendant une heure et demie environ plusieurs séances.
L'entretien d'information, c'est une heure de temps. Et ensuite, effectivement, quand on engage un travail de médiation, ce seront des séances d'une heure et demie, espacées à peu près de 15 jours à 3 semaines. Voilà. Il y a cette fréquence-là, ça dépend des situations. Voilà.
Souvent, on les espace avec les personnes, on se met d'accord avec elles, parce qu'il arrive qu'entre les séances, les personnes arrivent à trouver des petits accords ou des accords à laisser, en tout cas. Et ça leur permet un petit peu de voir comment en fait ça pourrait fonctionner dans le quotidien, ce qui leur permet ensuite de revenir en séance de médiation et de pouvoir modifier pour que ce soit le mieux possible. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu dire que devant tous ces sujets, vous en aviez le tournis, mais je tenais à vous rassurer, normalement une médiation c'est un processus court dans le temps. Généralement il faut 2 à 4 voire 5 séances de médiation pour arriver à des accords.
Donc toute la liste là, des difficultés qu'on faisait tout à l'heure, finalement on trouve des solutions et vous appelez des accords.
Nous sommes formés justement à encadrer, ou accompagner les personnes à trouver des solutions sur le pratico-pratique. Et c'est en ça où on se différencie aussi de la thérapie, qu'elle soit familiale ou de couple ou individuelle.
Donc un métier où il faut être à l'écoute, positif, parce qu'il faut parfois essayer de tirer le meilleur de situations un peu inextricables.
Oui, beaucoup d'empathie, de bienveillance,
de disponibilité.
Active, parce que notre travail c'est aussi de reformuler, d'inviter les gens à pouvoir expliquer davantage leur position, et eux-mêmes se surprennent souvent à dire mais là je dis des choses que j'ai jamais pu dire avant, et c'est comme ça que finalement des situations bloquées arrivent à se débloquer progressivement.
Merci beaucoup pour ce temps passé avec vous, mesdames.
Merci à vous.
Pour nous parler de votre métier, la médiation familiale, que vous exercez dans les différentes associations dont nous avons parlé. Je l'ai redit une dernière fois. Donc, Marie-Josée Assier, vous êtes au sein du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dont vous êtes la directrice également.
Oui, tout à fait.
Et vous, Marie-Pierre Soucas, c'est la médiation familiale à l'ADAC. Ah, c'est ça, 65.
La DSEA, pardon,
je l'ai mis dans le mauvais ordre. C'est l'association départementale Sauvegarde Enfance et Adolescence.
Tout à fait.
Et l'UDAF, qui a sa médiatrice familiale. Vous êtes peut-être plusieurs à l'UDAF d'ailleurs, Christine Cazot.
Je suis la seule médiatrice familiale.
Bon, voilà.
Les trois seules médiatrices familiales sur le département.
Eh bien, bravo. Nous les avions rassemblées dans ce studio. Voilà. Christine Cazot, médiatrice familiale au sein de l'UDAF 65. Merci mesdames.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour essayer de trouver des accords entre ceux qui sont en discorde.
Et merci à vous de permettre au public de connaître ce service qui est très utile pour beaucoup de personnes.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.